programme de cours du matin, j'ai choisi deux sujets qui seraient liés au thème général du séminaire. D'une part, un texte du Maharal que vous avez donc dans votre dossier, c'est ce texte-là, le chapitre 29 de Gvurot Hashem, qui est accompagné d'une citation de Shmuel, l'exode. Alors, ce texte que nous essaierons de faire dans les premiers jours, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi et mardi, c'est sur le thème général de l'élection d'Israël. Nous comprendrons rapidement la relation avec le thème général du séminaire Mendelssohn, la Scala, l'assimilation. Mais malgré tout, c'est plus orienté sur une exégèse directe du verset, à travers d'ailleurs Rashi, sur lequel le Maharal se base. Le deuxième sujet, vous avez aussi déjà les textes, portera sur les voies de la connaissance. Et nous suivrons à travers Rashi, le Réhem, Rabbi Léon Mizrahi, le Maharal et Rambam Maïmonide, d'une discussion sur le thème de l'accès à la connaissance de Dieu en particulier. Et c'est aussi relié avec le problème des méthodes d'exégèse et de spéculation propres à la période de la Haskalah. Et là, je pense qu'on arrivera déjà mercredi, jeudi, vendredi. Ce même thème sera repris dimanche prochain par Michel Prince sur un texte de Kliyakar sur le même sujet. C'est le Kliyakar qui nous sera distribué d'ailleurs rapidement. Le Kliyakar sur le premier verset de la Torah. Et Michel Prince lui-même vous expliquera en quoi ce sera la clôture de notre étude cette semaine et l'introduction à un séminaire permanent qui tiendra l'année qui vient sur l'étude de la langue biblique. Enfin, il le dira mieux que moi, à travers une initiation un peu plus systématique à la grammaire de l'hébreu biblique, comme introduction à des textes bibliques à proprement parler. D'ailleurs, je serai aussi dimanche et nous y arriverons à la fin de la semaine. Alors, vous allez prendre tout de suite ce texte du Maharal avec la citation de Shmuel qui l'accompagne. Je veux dire très rapidement quel est le moment du récit. Nous nous trouvons dans le chapitre 4 de l'Exode. Après la révélation du buisson ardent, lorsque Moïse, pour la première fois, a eu par révélation confirmation de ce qu'il déjà nous a raconté depuis le début de l'Exode comme étant la mission qu'il avait choisie. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Moïse est déjà âgé de 80 ans. Il avait vécu 40 ans en Égypte. Ensuite, après s'être enfui d'Égypte, il avait vécu 40 ans à Midian avec Jéthro. À la fin de cette deuxième période de 40 ans, a lieu la révélation du buisson ardent. Ça veut dire que pendant les deux premières parties de sa vie, Moïse n'avait encore pas eu de révélation prophétique à proprement parler. Il avait lui-même pressenti quelle devait être sa mission, et là, ça va lui être confirmé. C'était bien cela qu'il fallait faire. Choisir pour Israël contre l'Égypte de ce temps. Et déjà, les allusions commencent, mais enfin, c'est un autre problème. Retourner en Égypte pour sauver Israël de la galoute. Alors, après la révélation du buisson ardent, Moïse va chez Jéthro pour lui demander la permission, c'était un mot un peu trop schématique, mais enfin, pour prendre congé de lui et commencer. Donc, l'histoire de la troisième période de sa vie, la troisième période des 40 ans où il sera le chef d'Israël dans la traversée du désert, avec toutes les péripéties que cela comporte. Et là, nous avons un certain nombre d'indications que le Maharal va utiliser en exégèse directe et aussi en analyse générale pour nous faire approcher déjà dans cette première dimension du thème donc de l'élection d'Israël à ce moment. Bien, je ne reviens pas donc sur cette introduction qui implique des thèmes importants pour eux-mêmes, en particulier le fait que nous avons là déjà une première indication que dans les grands moments de l'histoire, l'initiative vient de l'homme et ce n'est qu'en fin de compte qu'elle est confirmée, habilitée par la révélation. Alors on commence la lecture et je vous signalerai les deux expressions qui seront nécessaires pour l'étude du Maharal. Alors, vous avez au début déjà le verset 20 du chapitre 4. Vaïkar Moshe et Tishtove Panav, et Moïse prit sa femme et ses enfants. Vous vous rappelez qu'il avait eu deux garçons. L'un c'est nous, avec même nous.
Même.
On ne va pas vous laisser impressionner comme ça. Même que c'est même. Guerre Haïti verret Nochria. Et ensuite l'autre. Le deuxième fils de Moïse. Eh bien, vous chercherez ça dans les concordances. Et ça renvoie d'ailleurs à deux expériences et à deux péripéties de sa vie. Et après cette expérience, alors on va nous raconter des détails apparemment inutiles. Que pour prendre congé de Jethro, Moïse prend sa femme et ses filles, donc c'est important de le savoir, Vayarkivem ala hamour. Et il les installa. La racine signifie chevaucher. Il les mit à califourchon, je ne sais pas comment dire, il les assiste, un peu simple encore, mais nous verrons le détail par la suite, sur l'âne. Il y a tout de suite la question qui apparaît, c'est pourquoi il faut savoir que c'est sur un âne qu'ils ont voyagé, et il n'y a pas écrit sur un âne, mais sur l'âne, avec le Hayedia, avec l'article défini. Et il les fit chevaucher l'âne. Vous voyez que c'est impropre en français, cheval et âne, mais en fait, c'est un peu d'autre. Et le Maharal va poser la question, qu'est-ce que c'est que cette âne? Et on va retrouver cette âne dans le Midrash. C'est un hamour, un âne, qui joue un rôle très important dans les grandes péripéties de l'histoire d'Israël depuis l'origine. Vayashov Vatsam Mitzrayim, et il retourna en direction de la terre d'Égypte. Vayikar Moshe et Matel Elokim Beyado, et Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Et voilà, verset 21. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, Belechtecha lashuv Mitzrayima, lorsque tu seras en chemin pour retourner en direction de l'Égypte, ré, vois, kolamofti, machersam tibiadecha, toutes les signes, ou les prodiges, si vous voulez, ou les preuves d'ailleurs, que j'ai placées dans ta main, va'asitam lifne pharao, tu les accompliras, tu les réaliseras, tu les feras devant le pharaon, va ni à hazek et libo, et moi j'endurcirai son cœur, comme on traduit, velo yeshalach et aram, et il ne laissera pas partir, il ne renverra pas, il ne fera pas partir, il ne donnera pas à partir au peuple. Et voilà le verset qui va nous préoccuper, nous occuper, verset 22. Ve'amarta el pharao, et tu diras au pharaon, ko amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Hashem. Regardez, je vous demandais de laisser la porte ouverte ou fermée parce que ce glacement est très peu. Alors, il vaut mieux la laisser ouverte. Et vous avez encore des places là. Hashem, ainsi a dit Hashem, Beni Bechori Israël. Alors, on va d'abord traduire. Beni Bechori Israël. Le sens, c'est Israël est mon fils premier-né. Vous comprenez comment ça se relie à notre sujet, le thème de l'élection d'Israël, et vous mettrez donc ce thème d'élection entre guillemets. Vous savez que ce n'est pas exactement une catégorie qui traduit l'hébreu correspondant, Asher Bahar Banu, ça nous aurons l'occasion d'y revenir. Et ça nous vient plus du vocabulaire biblique tel que les chrétiens l'ont employé, beaucoup plus que les juifs qui l'ont adopté à la suite de la Haskalah, mais gardons-le provisoirement. Or, l'exégèse directe nous donne un sens un peu nuancé. Je reprends en hébreu, essayez de lire avec le ta'amim, avec l'accentuation. Beni Bechori Israël. J'ai traduit tout à l'heure, Israël est mon fils premier-né. Qui peut proposer une traduction beaucoup plus précise, beaucoup plus nuancée? Beni Bechori Israël. Oui? Non, c'est une question du coup. Entendez-le, Béni Béchori, Israël. Entendez-le avec les tahamim, que je ne vais pas vous chanter, je ne sais pas, mais... Ça y est ? Traduction proposée, c'est « Israël est mon fils premier-né ». Bon, mais ce n'est pas comme ça exactement que ça a été écrit. Quel ? Non, non. Il y aurait... Non, non. Il y aurait « Bno shel Bechori ». Non. Non, non, ne cherchez pas midi à 14h, c'est très simple.
Oui, Israël,
l'aîné de mes fils.
Attends.
Premier-né et Israël.
Oui, alors rajoutez un petit quelque chose, c'est juste. Mon fils premier-né, c'est Israël. Béni Bechori, Israël. Qu'est-ce que cela enseigne ? C'est qu'il pourrait y avoir un doute. Qui est le Ben Bechor ? L'Égypte ou Israël ? Et ici, nous avons une révélation qui vient confirmer à Moïse que son choix était authentique. C'est Moïse qui a choisi entre l'Égypte et Israël. Il aurait pu être celui qui aurait fait basculer l'histoire humaine dans le sens de la civilisation égyptienne, il en avait les moyens, ou celui, ce qui a eu lieu, qui a fait basculer le sens de l'histoire à travers Israël. Basculer n'est peut-être pas le mot exact. Et alors, voilà ce chidouche, voilà la chose nouvelle qui apparaît dans ce carrefour de choix, si j'ose dire, qui se passe à ce moment-là historiquement. C'est Moïse qui fait, au niveau de l'initiative humaine, que l'histoire va passer par Israël, et non pas par l'Égypte pharaonique et toute sa sagesse, et toute sa civilisation, et toute sa tradition. Oui. Et puis, voilà que Moïse, jusqu'à présent, n'avait pas confirmation que son choix était celui qu'il fallait faire. Et il avait des raisons de douter. Vous rappelez que lorsqu'il s'est enfui de l'Égypte, quelle était la raison immédiate ? Il avait été déçu de l'état de la société des Hébreux. La première fois, il avait vu un Égyptien frappant un Hébreu, alors il a choisi pour l'Hébreu. Mais le deuxième jour, il voit un Hébreu frappant un Hébreu, alors il est en pleine perplexité. Il est déçu et il s'enfuit. Et il va à Midian, nous avons appris cela une de ces années, je ne sais plus, il va à Midian tenter d'inventer un ersatz d'Israël avec Midian. Vous vous rappelez, je ne veux pas revenir sur les détails. Et c'est là, en fin de compte, que lorsqu'il a un enfant et qu'il l'appelle Gerecho, en disant « Kigeraïti beret nochria », je sais que je suis étranger en terre étrangère. Il a été le Moïse de Midian, mais finalement l'histoire lui dévoile qu'il sera étranger en Midian. Alors là seulement Dieu se révèle à lui pour lui dire « Non, tu es vraiment d'Israël » et retourne en Israël, en Égypte, pour, peut-être que l'Égypte c'est déjà Israël, mais enfin il retourne en Égypte pour sauver Israël. « Ami Asher ve Mitzrayim », pas Midian, mais mon peuple qui est en Égypte, c'est-à-dire Israël. Jusque-là, il peut y avoir un doute. Qui est le fils aîné du Créateur ? Par où ? Qui est le chef de file de l'histoire et de la civilisation humaine ? Est-ce que c'est l'Égypte, comme on pouvait le croire jusqu'à présent, ou est-ce que c'est Israël ? Alors, les trois mots du verset viennent nous le confirmer. « Béni Bechori, Israël ». Mon fils premier-né, c'est Israël. Est-ce que c'est clair pour cette traduction-là ? Oui ? Et nous allons le voir immédiatement par la suite, dans le verset suivant. « Va'omar elecha » Et je te fais dire, je te dirai à toi, il s'agit du pharaon, « Shalach et béni, renvoie mon fils, ve'yaravdeni qu'il me serve, va'temaen l'eshalecho » Il faudrait même traduire « Va'omar » et « je t'ai déjà dit, je t'aurai déjà dit ». Ça ne s'est pas encore passé, mais Dieu explique à Moïse dans quelle situation il sera lorsque, son cœur ayant été endurci, le pharaon va refuser. « Va'omar » Et je te dirai, mais avec le sens de « je t'ai dit, cependant, renvoie mon fils, qu'il me serve, va'temaen l'eshalecho » Tu refuses, tu as refusé de le renvoyer. « Hine anochi horek et bincha bechorecha » Alors moi, je tuerai, me voici tuant, si vous voulez, ton fils premier-né à toi, le pharaon. Alors il y a deux concepts, deux catégories. « Béni bechori » c'est Dieu qui parle, ça c'est Israël. Bincha bechorecha, il y a aussi un fils premier-né du pharaon. Pourquoi j'ai lu jusqu'à présent, jusque-là, c'est pour mettre en évidence le fait que le mot de Bechor, premier-né, dans le verset qui concerne Israël, c'est-à-dire le verset 22, doit être évidemment pris dans le sens pshat, puisque ce même mot de Bechor, dans le verset 23 qui concerne le fils aîné du pharaon, est évidemment aussi dans le sens pshat. C'est clair ? Vous avez bien compris. Or, nous allons avoir, ça va jusque-là ? Nous allons avoir une surprise. Ici, Rashi va nous dire, non, que ce n'est pas le sens pshat, que ça a un autre sens. Et ça va nous fournir la première question qui nous permettra d'entrer dans la lecture du Mar. Est-ce que tout le monde a vraiment un texte? Je ne sais pas où ils sont. Il en reste? Bon, oui, prenez. Bien, alors j'espère que c'est déjà 10h30 et qu'on va pouvoir... Vous y êtes, on peut lire? Voilà, à peu près ici dans Rachid. Oui. Béni Bechori. Alors, Rachid, la chaune Gdoula. Oui, tout de suite, Rachid nous avertit, on ne peut pas lire Pshat. Bechori, l'aînesse, mon aîné, ici, la chaune Gdoula. C'est un terme pour dire la grandeur. Un peu la grandeur dans le sens gaulien. Oui. La grandeur. C'est un terme de grandeur, de majesté. La Bechora, comme on dit, dans le sens strict, légal, juridique, la Bechora, c'est le droit d'aînesse, Mishpata Bechora. Mais cette même expression, Mishpata Bechora, ça veut dire celui qui passe avant. Quel que soit le critère qui fait que cela, il passe avant. Donc, la Shon Gdoula, un terme, une signification de grandeur. Kemo, et Rashi a un appui dans un verset des psaumes, c'est Tehilim 89, Afani Bechor Eteneu. Et quant à moi, je le placerai comme Bechor. Et dans ce verset, vous verrez le contexte, cela a effectivement un sens de grandeur. Vezepshuto. Et ça, c'est le pshat, dit Rashi. Que Rashi nous dit que le pshat du verset Béni Bechor et Israël, ce n'est pas notre pshat à nous, la traduction de Bechor comme premier-né. Mais ça veut dire un terme de grandeur. Ou Midrasho, et selon le Midrash, Kan Hatam Akadosh Baruch Hu, c'est ici que Dieu a scellé, littéralement signé, scellé, Al Mechirat HaBechora, chez la carte Yaakov Mehessa. C'est ici que Dieu a confirmé la vente du droit d'aînesse que Ésaü a vendu à Jacob, que Jacob a pris de Ésaü. Alors, ça y est. Asseyez-vous, parce que je ne peux pas parler debout. Sinon, si vous êtes debout, je ne peux pas parler assis. Il n'y a plus de chaise. Tiens. Alors, je reprends très brièvement l'enseignement de Rashi. Le pshat ne serait pas, du mot Bechor, ne serait pas le pshat auquel on s'attendrait, c'est-à-dire premier-né, mais ça veut dire la grandeur. Il y a là... un peu comme nous avons déjà vu tout à l'heure, que Dieu donne la préférence à Israël par rapport à l'Égypte. Et que si l'Égypte ne laisse pas naître cet Israël qui doit naître dans la sortie d'Égypte, eh bien c'est la prééminence de l'Égypte qui, elle, sera frappée. Et nous savons que par le Tchad, elle sera frappée par ses premiers-nés, et avec en tête le premier-né de Pharaon lui-même, d'après le contexte de l'Exode lui-même d'autre part. Or, Deuxième enseignement, Rashi cite le Midrash. Et d'après le Midrash, eh bien, il faut penser que la querelle n'est pas entre Israël et l'Égypte, mais que la querelle est entre Jacob et Ésaü. Et que c'est ici que Dieu a confirmé que c'est bien Jacob qui est l'aîné et pas Ésaü. Vous voyez donc quelles sont les données du problème. Alors simplement que nous réfléchissions très rapidement ensemble sur la raison pour laquelle... Rashi pense que c'est difficile ici de lire premier-né. Shutok et Mashmao. Enlevez cette porte. Voilà, on est arrivé là. Comme question, essayons de la formuler ensemble. Vous voyez quel est le problème. La lecture la plus simple. La lecture la plus simple, c'est évidemment de lire « Béni Bechori Israël, mon fils premier-né, c'est Israël. » Rashi nous dit « Non, lisons autrement. Celui qui passe avant, Gdoula, grandeur, en tête, Rishona Issaou, ça c'est Israël, et plus l'Égypte, pour profiter déjà des analyses que nous avons eues. Maintenant, nous avons un Midrash d'Irachi qui va s'appuyer sur ce verset pour dire « Nous ne savions pas encore que Dieu avait confirmé l'échange du droit d'aînesse entre Ésaü et Jacob, c'est là que c'est indiqué. » Et donc ici, il s'agit bien de l'aînesse, dans le Midrash d'Irachi. Alors, quelle était la difficulté de Rachi qui le mène à changer le pshat? Donnez-nous des hypothèses, et puis on verra laquelle choisir. Laquelle est plus proche, si vous voulez, du problème. De quoi a peur Rachi? Je vous rappelle que Rachi vivait en France, si ça peut vous aider. Pardon?
La fille, elle est amie de l'Église.
Oui, mais qu'est-ce que ça nous apprend? Non, je ne crois pas que ce soit ça, de ça qu'il avait peur. Je ne crois pas que ça l'impressionnait tellement. La réponse, enfin l'hypothèse que je vous proposerai, pardon.
Peut-être que ce soit, quand on dit le meilleur, c'est qualitatif, tandis que la position d'aîné pour leur fils
serait.
C'est comme ça, disons, d'une façon. On pourrait prendre la relève. Tandis que quand c'est qualitatif, c'est le meilleur sur le plan qualitatif, on ne peut pas.
Si tu permets que je formule un peu différemment ce que tu as dit, Gedoula, c'est un jugement de valeur. Donc ça se relie au mérite. Alors que Bechor, c'est une situation naturelle. C'est la nature qui fait que le premier est le premier. Alors que c'est le mérite qui fait que celui qui mérite le plus, jugement de valeur, bon, c'est important ce que tu dis là, mais ce n'est pas dans l'exégèse. Ça, c'est un thème de philosophie, qui est vrai pour lui-même, mais qui n'est pas là-dedans. C'est parallèle, c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que le Midrash, que cite Rashi, démolit cela, en disant, mais toutes les façons, pour Jacob et Ésaü, c'était bien un échange de l'aînesse selon la nature. Et Bechor, ça veut vraiment dire Bechor, d'après la nature. Tu comprends? Là, c'est un bon exemple, grâce à ta question, de méthode de l'exégèse. Le thème que tu as analysé a sa valeur pour lui-même, mais c'est de la philosophie, c'est pas de l'exégèse du texte. Est-ce que c'est clair? Non, il y a autre chose. C'est que Rashi veut nous empêcher de lire un autre mot qu'il y a dans le verset et qui lui fait problème. Bechor fait pas tellement problème. Et Rashi nous camoufle le vrai problème dans ce problème de Bechor, Gdoula ou Bechora. Vous suivez en hébreu, hein? C'est quoi? Reprenez le texte. Béni Bechori Israël. Pour nous empêcher de lire béni, alors il nous fait lire Bechori. Qu'est-ce qu'il y a dans béni qui fait problème?
Que les autres n'en savent pas.
Mais non, ça c'est un problème second, intérieur. Mais le problème massif de la lecture d'abord, qu'est-ce que le texte dit? Ce que dit le texte, nous sommes tellement habitués par les styles du pastiche théologique de la Bible, il y a un verset qui dit. Que pastiche et foutette sera, c'est là. Vous connaissez le verset? Que pastiche et foutette sera.
Je pense à une autre chose, un peu farfelu, mais je pense peut-être au fait que Rashi il situe son pérouche dans la polémique judéo-chrétienne.
C'est-à-dire?
On peut lire le verset peut-être, mon fils, celui-ci sera le Bechor Israël, celui-ci sera le premier-né, l'élu, et celui-ci sera Israël. Donc la nature du fils est encore
déterminée. Très bien, très bien, mais tu es allé trop vite. Et il n'y a pas ici dans Rashi, je pense, puisqu'il commence la Bible et pas, je veux dire, le Tanakh et pas la Bible. Il n'y a pas ici encore le problème de Jésus, fils de Dieu. C'est le mot fils qui fait problème. Pour la première fois, on entend que Dieu dit, en parlant d'une créature, que cette créature est son fils. Il s'agit d'Israël, il ne s'agit pas du tout de la querelle postérieure après l'apparition du christianisme. Mais bien avant cela, ce verset nous dit une chose énorme, qu'à la rigueur, en contexte judéo-chrétien, ça passe. Mais dans la lecture juive, il faut être arrêté. Alors, Rashi nous dit, tu ne peux pas lire, fils. C'est pour ça que tu ne peux pas lire Bechor. Ça y est, c'est clair? Je crois que c'est l'hypothèse la plus proche de notre problème. Et alors, nous allons voir le Maharal qui va s'installer dans ce Rashi et qui va nous expliquer que Ben, ça veut dire fils. Et vous voyez, quelle est la première question. Je viens à la question de Régine tout de suite. Ça implique que les autres aussi sont des fils. Alors ça multiplie le problème par autant de fils qu'il y a de fils. S'il dit c'est mon fils premier-né, c'est que les autres aussi sont des fils. Et donc la différence est dans premier-né. Alors, on peut lire Rashi que quand on a déjà élucidé qu'est-ce que ça veut dire qu'une créature soit le fils du créateur. Ça y est, c'est clair. Bon, vous voyez quel est le problème. Bon, alors je crois que c'est important, on est allé, grâce à Dieu, un peu vite aujourd'hui, de voir que ce que je voulais montrer un peu, c'est ceci. Ce n'est qu'à travers une exégèse précise de lecture de ce qui est écrit en hébreu qu'ensuite les thèmes sont à leur place. Sinon, les thèmes sont décalés, c'est de la à peu près, il y aurait du flou, vous comprenez? Et ça, peut-être que le principe est assez simple à comprendre. C'est l'habitude de lecture des traductions et des interprétations théologiques sur les traductions qui nous empêchent de voir les problèmes d'exégèse qui sont des problèmes très simples, toujours. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que je disais que si Rashi était en pays d'islam, il n'aurait pas été gêné par le mot de fils. Oui, mais il est en pays chrétien, donc il est gêné. Alors il nous déplace la difficulté. Mais en nous l'indiquant très clairement. Parce que s'il a un problème avec premier-né, c'est qu'il a un problème avec fils. Bon. Là, petite indication linguistique, si vous voulez, très, très rapide. Il faut passer par l'araméen pour le comprendre de façon un peu plus précise. Le mot de création en araméen est très proche du mot faire fils en araméen. En araméen, baro, je le dis en araméen, pas en hébreu, baro en araméen nous mène tout de suite à la racine, bera, bar, qui veut dire le fils. Donc en araméen, créer, ça veut dire faire fils. Je veux dire, non, on n'a jamais employé comme ça, mais dans le sémantisme du vocable, si nous lisions la Torah en araméen, alors nous le lirions de façon très immédiate. Bereshit bara en araméen, ça veut dire que le Créateur est considéré le Père comme étant le Père engendreur de toute sa création. Ça veut dire que c'est l'ensemble du monde, la Bria, qui est le Fils de Dieu. Mais vous voyez que nous sommes en deçà des catégories théologiques propres aux contestations judéo-chrétiennes. Mais qu'il y a là un terme qui, dans la familiarité de l'hébreu, ne faisait pas problème. Que la création tout entière est comme le fils du Créateur. Abinou Sheva Shamaï. Okay. Comment prendre ça à la lettre? Alors là, il faut passer par la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment à la lettre? Ça, il faut passer par les Sitrei Torah. Mais, si vous voulez, dans l'image que le terme choisi par la Torah emploie, c'est clair. J'ajouterai comme. C'est le monde tout entier qui est comme le fils du Créateur. Est-ce que ça va jusque-là? Et qu'ici, l'enseignement, le chidouche, c'est la place particulière d'Israël. Que ça aurait pu être l'Égypte, peut-être en hypothèse. Et qu'à partir d'une certaine charnière historique, mutation, je parle l'Égypte du Pharaon, bien sûr, eh bien, il y a confirmation. Non, ça passe par Israël. Béni Bechori, Israël. Oui, je vais vous dire les taramim en sfaradi, mais quelqu'un le dira aussi en ashkenaz. C'est Ma'arir Tarha. Sauf pas sous. Béni Bechori, Israël. Sinon, il y aurait Béni Bechori, Israël. Le Bechori serait lié à Israël. Accent conjonctif. Vous voyez ce que je veux dire? L'indication ici est très claire, du point de vue de l'intonation. Si on veut savoir qui est mon fils premier-né, eh bien, c'est Israël. Et ça s'oppose à quoi? Au fils premier-né du Pharaon. Donc, l'hypothèse aurait été que ça aurait pu passer par la tradition de l'Égypte, de l'Antiquité, vous savez à quel point les historiens utilisent ce thème-là. Bien. Alors, je pense qu'on peut aborder le Maroc. Quelqu'un a posé une question, je crois. Oui.
Quand Rashi dit Midrasho, est-ce que c'est son drash à Rashi ou est-ce qu'il se base sur des anciens?
Il se base sur un Midrash.
Midrash Gadol ou Tankouma?
C'est le Midrash Rabba ici.
Rabba.
Bien. Alors donc, ce que nous avons découvert, si vous voulez, c'est que finalement, pour l'hébreu ancien, on s'est appuyé un peu sur l'araméen, cette catégorie de fils de Dieu était très familière. C'est à partir de la contestation judéo-chrétienne que ça va devenir difficile. Mais l'idée ne fait pas problème en réalité. Elle est cachée par ce Rashi, déplacée, si vous voulez, par son exégèse, mais enfin, c'est le sens strict du terme. Je dirais peut-être que la catégorie philosophique qui s'approche le mieux ou le plus de cette catégorie du créer en araméen, ce serait extérioriser, faire exister en tant que l'on fait exister comme extérieur à soi. Ce n'est pas l'étymologie latine stricte, existere, Mais baro, en arabe, ça veut dire littéralement mettre en dehors. Bra, okay, en arabe. Non, j'ai prononcé un peu l'israélienne moderne, c'est bra, avec resh espagnol. Okay, bra, c'est-à-dire mettre en dehors. C'est clair? Bon. Eh bien, c'est ça le geste de faire fils, c'est mettre en dehors. C'est sacré. Alors en français, on dira procréer, mais tout ça est très proche. Bien, s'il n'y a pas de questions, on aborde, oui.
Est-ce que Rachid n'aurait pas eu aussi dans l'idée la phrase de l'évangile? Au moment du baptême de du Christ par Saint Jean, celui-ci est mon fils, premier-né, ce sont les mêmes paroles.
Ah ben c'était la question qu'on a posée tout à l'heure. Vous comprenez? Et il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Cette controverse, Rachid ne veut pas nous la faire lire dans son étude. Il commence la Bible des Juifs. Il ne se préoccupe pas de la controverse théologique. Mais, étant donné qu'elle existe, alors il déplace la difficulté. Je veux dire, c'est arrivé beaucoup dans la mentalité générale du judaïsme de pays chrétiens, qu'on s'est défamiliarisé avec le sens hébreu antérieur des termes à cause de la lecture chrétienne. Mais pour les juifs des pays de l'islam, il n'y avait pas de difficulté. Vous comprenez le problème? Il y a un autre exemple, je vous signale en passant, si vous voulez, si on a le temps, on pourrait reprendre. Il y a une controverse très importante entre Nahmanide et Rashi sur la catégorie de la foi chez Abraham. Ve'min bashem va'yarchev ve'alot tzedaka. Vous revoyez le verset, okay? Et alors, Rashi et Nahmanide lisent de façon radicalement différente. Pourquoi? À cause du problème de la contestation théologique entre foi et mérite. Et alors, la lecture de Rashi, c'est la lecture au niveau d'Abraham, alors que la lecture de Nahmanide, c'est une fois la loi de Moïse et un était déjà donné. Et c'est pourquoi Nahmanide, qui lui, à son époque, avait été en plein en Espagne, dans les controverses judéo-chrétiennes, demande à ce que l'on ne lise pas comme Rashi. Parce que si on lisait comme Rashi, ça risquerait de donner raison à la théologie chrétienne. Et je ne sais pas si nous allons étudier ce problème ici, oui. Sinon, on pourrait le reprendre, le Kaesh. Voilà, alors, je pense que c'était clair. Je ne pense pas du tout que l'intention de Rashi ait été de faire allusion à la controverse judéo-chrétienne. Mais la question que je posais, c'est celle-ci. Pas qu'est-ce qu'a voulu dire Rashi, mais qu'est-ce que dit le texte de Rashi comme il l'a formulé. Vous comprenez? Et ce qu'il dit, c'est évidemment le fait de nous demander de déplacer la lecture du mot « fils » au mot « premier-né ». Mais c'est pour nous indiquer que le mot « fils » signifie vraiment « fils ». Voilà, là où nous sommes arrivés, je pense. Okay. Très bien. Oui, le masculin ici était un peu de trop, c'était un autre problème, mais c'est juste. Bechor, ça signifie fils aîné déjà. Okay. Et ça aide Rashi, ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que le substantif, c'est bien béni, et que Bechor, ça veut dire doula. Ça aide un peu Rashi, certainement. Alors je vous propose de commencer tout de suite le Maharal, où. Si la question est sur le sujet, sinon, c'est dans le Maharal que nous allons voir vraiment le fond du problème. Ah, j'entends pas, j'en ai plus fort. Ce que vous dites est vrai, mais sur l'autre verset que vous avez cité, Amzou Yatsartili, ce n'est pas nécessaire de le voir ici. Ici, il y a, et le verset 23 qui suit le monde, ici, il y a choix d'Israël contre les Juifs. Il y a deux hypothèses. Ben Bechor d'Israël et Ben Bechor, qui est Ben Bechor de Dieu, et Ben Bechor du Pharaon. Bien. Alors, Kohamar Hashem, c'est la première colonne, là. Vous avez un texte? Kohamar Hashem, Béni Bechori Israël, Végoré. J'en ai encore un là, si ça manque à quelque chose. Kara Israël, Beno Bechoro. Là, nous lisons le Maharal. Il a nommé, dénommé Israël, son fils premier-né. Ratzalomar. Et cela veut dire, il veut dire par là, Kemo shehabechor nikra reshit. De même que le premier-né, Bechor, est appelé, se définit comme étant reshit, le commencement. Et ça veut dire que il est, comme toutes les créatures, créature, mais avec cet indice particulier que c'est le premier pour qui ça arrive la première fois. Reshit. Et là, il a quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir. Le fait d'avoir été le premier. Dans le mahout, si vous voulez, dans l'essence de son identité de créature, il est créature. Les autres comme lui, lui comme les autres. Mais par le fait que c'est la première fois qu'il a été créature, cette chose-là, jamais personne d'autre ne l'aura. Est-ce que c'est clair jusque-là ? C'est ce qu'il y a dans Réchit. Kihou Réchit Ono. Ça renvoie à un verset que vous avez dans les bénédictions de Jacob à ses fils, à la fin de Bréchit. Kihou Réchit Ono. L'expression Réchit Ono est utilisée par Jacob lorsqu'il bénit Réhouven et qu'il lui dit Kochi Vereshit Oni. En Jacob, s'adressant à Réhouven, qui est son premier fils dans l'ordre, elle lui dit, tu es Kochi, ma force, Vereshit Oni est le commencement de ma force. C'est intentionnellement que j'ai traduit par le même mot français. Mais il y a une nuance. Koach. Dans Koach, vous avez aussi, mais ça c'est déjà de la philosophie quand même, l'idée de potentiel qui va pouvoir passer à l'acte. Koach. Mais Koach, ça veut dire une force potentielle. Oni, c'est la force réalisée. On, Aleph, Vav, Nun. Alors, le Maharal utilise cette expression pour dire Kihu Reshit Ono, parce qu'il est le commencement du dévoilement de sa force. Hathalat Harot Kocho, le début du fait de dévoiler, Harot, du dévoilement de sa force. Chez l'Adam, chez Niglabo Kocho. L'image qui est prise est dans l'engendrement chez l'homme. Alors, le premier engendré, c'est le commencement du fait de dévoiler ce qui était en potentiel chez le Père, terme philosophique, mais comprenez-le au niveau exégétique, ce qui était destiné à être réalisé dans le monde de la réalité, mais qui était en vérité déjà au niveau du Créateur. Vous voyez que nous sommes ici en pleine consubstantialité, diraient les théologiens. Mais il ne s'agit pas du tout de cela. C'est une catégorie hébraïque très familière au lecteur hébreu de la Bible et qui va faire problème avec la lecture chrétienne que je voudrais indiquer très schématiquement maintenant, mais nous renvoyons ça à la fin de la lecture. C'est autant l'idée, le terme de fils de Dieu, ça veut dire le créer en hébreu, et donc il n'y a pas de problème. Okay? Autant le terme de Dieu le Fils va faire problème théologique. Et cette catégorie-là de Dieu le Fils n'existe pas dans la mentalité hébraïque. Vous voyez donc quelle est la situation du problème pour aller rapidement. Alors je continue. Ki haben, car le Fils, hu kocho shel av, c'est le koach du av. Il y a une Gemara qui dit en araméen ce qui était en potentiel chez le Père, se réalise et se dévoile chez le Fils. Je ne sais pas comment vous dire ça en termes pas trop contemporains. Je pense qu'il y a des psychologues parmi vous, et dès qu'il y a des psychologues, il y a aussi des analystes. Mais ça voudrait dire peut-être que les fils sont des exemplaires de l'inconscient du Père, ou quelque chose de ce genre. Et alors c'est très dangereux d'être fils, parce que ça dévoile des secrets. Bon, mais pour le moment, nous parlons des pères et des fils terrestres, enfin, je veux dire, les créatures. Qui appelle Kochoshela, car Israël, de même Israël, et le Maharal veut dire que c'est ça que veut dire l'expression béni Bechor Israël, de même Israël, hem athalat gilui Kochoshela Kadosh Baruch Hu. Regardez bien, c'est le commencement du dévoilement de la force de Dieu, de la Kadosh Baruch Hu, Baralamazé. C'est-à-dire, si nous voulons savoir qui est celui que la Bible appelle Dieu, le Créateur, en termes de réalité de ce monde-ci, regardons Israël. Ça va loin, vous comprenez ? Donc. Et nous verrons plus tard que derrière ce Maharal, il y a le Kuzari, qui Alors maintenant, explication philosophique. Jusque-là, ça va? Ça veut dire, le Maharal nous dit, il faut évidemment prendre ça,
qu'un fils est un fils.
Et pourquoi Dieu dit cela d'Israël? Parce qu'Israël est par rapport à Dieu ce que chaque fils est par rapport à son père. Mais avec un cas particulier, c'est que celui qui a été la première fois, celui-là, c'est particulier. Il y a aussi le rôle du dernier, mais il y a premièrement le rôle du premier. Il y a un mystère avec ces expressions de Réchit, le commencement, et puis c'est l'Haftara qu'on a lu Shabbat, et puis à la fin, non, qu'est-ce qu'on a lu? Iftah Hagil Adi, non, c'est l'autre de Shabbat prochain, Vaya Sheherit Yaakov. Sheherit, c'est les mêmes lettres que Réchit. Ce qu'on retrouvera à la fin, c'est ce qu'il y avait au commencement. Mais il y a donc le rôle de celui qui est au commencement et le rôle de celui qui est à la fin. Et le rôle de celui qui est au commencement, c'est ça qui est appelé Bechor. Et qu'est-ce que ça dévoile? C'est ça que nous allons apprendre du Maharal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce caractère différentiel qu'il y a chez le premier et qu'il n'y a pas chez les autres? Je vais, peut-être pour nous aider à faire la lecture rapidement, dire un peu, en schématisant un peu, ce que le Maharal va nous dire. C'est que ce qu'il y a dans le premier, c'est le projet qui est dévoilé. Donc le modèle qu'il y aura à réaliser par tous. Mais ce fait d'être à la fois un exemplaire et aussi porteur du projet, ça c'est particulier, c'est ça l'aîné. Est-ce que c'est clair? Alors avance. Qui a Alul, Moré, Alaïla. Car, et là c'est le vocabulaire philosophique du Moyen-Âge, car la conséquence dévoile ce qu'est la cause. Il y a dans la conséquence, un peu par le procédé qu'on appelle chez les logiciens une induction, si on est capable d'induire quel était le principe, alors on voit le principe dans ce qui a été la conséquence du principe. L'effet dévoile la cause. Et qui a Ilul, Moré, Alaïla, Ibarach, Vehem, Alulim, Barishona. Or, Israël, c'est eux qui ont été les effets du commencement. Bon, ça va mais derrière le jargon, vous comprenez l'idée. Ils ont été effets de cette cause, Barishona, en premier lieu. Et par conséquent, il restera toujours une trace indélébile de ce fait d'avoir été le commencement et qui fait cas particulier avec les autres. Est-ce qu'on a réussi en tout cas à comprendre qu'on a disqualifié personne, mais qu'on est en train ici de définir ce qui fait que Israël est un cas particulier? Est-ce que c'est bien clair? Bon. C'est pourquoi nous avons tellement de sources qui nous montrent que lorsque les autres créatures s'attaquent à Israël, en réalité, elle s'attaque à Dieu lui-même. Ça dévoile qu'elle s'attaque à la cause, puisqu'elle choisit de s'attaquer à l'effet par excellence. Si vous voulez. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il y a énormément de sources qui le disent. Et je pense que cela se dévoile. La première fois qu'une civilisation est devenue vraiment matérialiste, athée, c'était le nazisme. Jusque-là, les civilisations pouvaient avoir énormément de défauts. Elles pouvaient avoir énormément de... comment dire, je ne sais pas comment dire, d'immoralité, etc. Mais c'est la première fois qu'il y a eu une civilisation qui s'est instaurée de façon aussi totale, comme étant à la fois athée dans le sens total du terme, si vous voulez, bien que mystique de paganisme énorme, et en même temps ayant choisi comme ennemi par excellence le peuple théophore, comme disent les poètes, porteurs de l'idée de Dieu, porteur de Dieu, d'après le Maharal, quand même. Et ça continue, je pense, avec la Russie soviétique, c'est la suite. Parce que c'est aussi la deuxième fois. Enfin, peut-être que la Russie soviétique était déjà, avant le nazisme, dans le principe, et qu'on choisit comme ennemi par excellence Israël. Et il faut voir ça à la fois schématiquement, donc très vague, mais en même temps de façon très précise, dans les détails des péripéties. Enfin, c'est vrai, grosso modo, et ça suffit pour le pressentir, mais c'est vrai finalement dans le détail très particulier. Je crois que lorsque nous parlerons de nouveau de Edom, à partir de Esav, de cette manière d'être la civilisation humaine qui s'appelle Edom, Rome, c'est donc qu'il y a eu énormément de péripéties. Et que les péripéties les plus accusées, alors c'est ça, c'est...